Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Dans l'histoire du jazz afro-américain, il y a les grandes figures universelles, Duke Ellington, Count Basie, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker ou Dizzy Gillespie. Mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ont contribué à l'évolution progressive de l'épopée des musiques noires. Souvent virtuoses, ces musiciens n'ont pas connu la renommée internationale, mais ont épousé la destinée des icônes d'antan. Ces hommes de l'ombre, qu'on appelait sidemen ou accompagnateurs, ont vécu de près l'aventure musicale des géants d'autrefois. Plutôt que de vous narrer la vie trépidante des étoiles du XXe siècle, nous allons cette semaine nous intéresser à tous ces artisans du swing qui, discrètement et humblement, ont participé aux révolutions culturelles de la Grande Amérique et observé de l'intérieur les soubresauts de la communauté noire. Vous écoutez actuellement le grand orchestre du trompettiste Dizzy Gillespie, qui fut l'un des pionniers du jazz en couleur, puisqu'il avait pour habitude d'accueillir dans son équipe des instrumentistes de tous horizons. De toute façon, par définition, les big bands avaient pour mission de donner un coup de pouce aux jeunes musiciens dont le talent précoce méritait une attention toute particulière. C'est ainsi que de nombreux anonymes se sont révélés au sein des grandes formations. Le saxophoniste Cecil Payne, aujourd'hui disparu, avait 24 ans lorsqu'il a rencontré son idole, Dizzy Gillespie.
The best part of my career that I liked the best was when I was with Dizzy Gillespie. But see what happened, how I got into Dizzy's band was.
Je considère comme la meilleure période de ma carrière l'époque passée avec Dizzy Gillespie. Un jour, Max Roach m'a appelé pour une séance d'enregistrement avec J.J. Johnson et Bud Powell. Après avoir terminé, je suis allé dans un club de la 52e rue sur leur invitation. Là se trouvait le big band de Roy Eldridge, qui cherchait des musiciens. Je suis allé à la répétition, j'ai discuté avec Roy Eldridge, qui m'a dit « Désolé, j'ai déjà un sax alto ». J'avais donc raté l'occasion, mais je suis tout de même resté pour assister à la répétition et voir les grands musiciens. Après quoi, je me suis mêlé à eux pour les écouter parler musique, et là j'ai entendu Roy Eldridge dire « Où pouvons-nous trouver un sax baryton ?» J'avais chez moi cet instrument que j'utilisais parfois quand je jouais dans les orchestres du coin. J'ai aussitôt réagi, j'ai un sax baryton. Bon, eh bien, viens avec demain pour la répétition. J'ai joué 2 semaines avec Roy Eldridge et le dernier jour, Dizzy Gillespie est venu voir Roy Eldridge au club et m'a entendu jouer. Il m'a aussitôt proposé de rejoindre son orchestre car Bill Graham, son saxophoniste, le quittait. C'est ainsi que j'ai rejoint l'orchestre de Dizzy Gillespie en 1946.
Thank you.
York, 1946. Cecil Payne joue une musique exigeante, mais tellement jouissive, aux côtés du légendaire Dizzy Gillespie. Il faut dire qu'à cette époque, le jazz est en pleine effervescence. La soul music n'existe pas encore, le rock'n'roll encore moins. Seuls les grands ensembles de 15 à 20 musiciens font danser la capitale du jazz, New York City. Tous ces brillants artistes noirs américains se donnent rendez-vous dans la 52e rue, où l'agitation populaire festive anime les nuits de Manhattan. Le saxophoniste Al Singer, né à Tulsa dans l'Oklahoma en 1919, fut époustouflé par la vigueur de ce quartier new-yorkais qu'il découvrait à 25 ans.
And I have some very wonderful memories of the first time I met Coleman Hawkins or Lester Young.
Je me souviens très bien de ma rencontre avec Coleman Hawkins, Lester Young, de mon arrivée à New York, de mes balades sur la 52e rue, où l'on comptait 8 clubs de jazz, où se produisaient les meilleurs musiciens de l'époque. Certains venaient juste prendre un verre ou bavarder. Je me souviens du cœur de New York, Broadway, la capitale des big bands. Benny Goodman, Woody Shaw, Charlie Burnett, Jimmy Lunceford, Lucky Millender. C'était une époque formidable. Il n'y avait pas de festival à l'époque. On se sentait proche des musiciens. Ils venaient faire danser le public. Aujourd'hui, c'est un spectacle et le public est avant tout auditeur. C'est bien différent.
Now, so many times, it's a spectacle and people are just listening.
Comme nombre de ses homologues sidemen ou musiciens d'accompagnement, Al Singer fait preuve d'une modestie qui l'honore. Sans fanfaronner, ce vieux monsieur vous raconte ses prestigieuses collaborations avec Duke Ellington, Ray Charles, Dinah Washington ou Big Joe Turner. Et bien qu'il pourrait se vanter d'avoir connu personnellement ces musiciens légendaires, il se contente d'évoquer leurs noms avec respect et déférence. J'avais des idoles. J'étais très proche de Roy Eldridge. Je vénérais cet homme. J'aimais aussi Johnny Hodges, Coleman Hawkins, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Max Roach. Je l'ai connu en 1944. À l'époque, j'habitais Brooklyn. Tous ces gens sont mes idoles, mes dieux. J'adorais leur musique. J'ai été un bon ami de Ben Webster. Il venait chez moi à New York. Il jouait avec mes enfants. Mais à mes yeux, il restait Ben Webster, mon idole. J'avais la même impression avec Dizzy Gillespie ou Kenny Clarke. Même si je travaillais avec eux, même si j'avais vécu aux côtés de Kenny Clarke, pour moi, il était le grand Kenny Clarke.
Even though Kenny and I lived here together and we worked together, it was still a relationship. Well, he is Kenny Clarke.
Avoir aujourd'hui la possibilité de converser avec ces témoins privilégiés est une chance et un honneur. Bien qu'ils furent souvent considérés comme des seconds couteaux dans l'histoire du jazz, ce qui est somme toute fort contestable, leurs souvenirs entretiennent notre connaissance et notre compréhension d'une époque lointaine. La mémoire vive d'Al Singer nous transporte dans un passé que nous n'avons pas connu et dont il est le garant face aux historiens. Comment aurions-nous découvert les petites histoires ou anecdotes des jazzmen entre eux sans le témoignage des vétérans? Sachant savourer le récit d'Al Singer, 95 ans, contemporain des grands chefs d'orchestre d'autrefois.
At that time, bands usually tried to get people.
En règle générale, à l'époque, les leaders faisaient appel à des musiciens qui correspondaient au style de leurs orchestres respectifs. Exemple, lorsque Count Basie fit appel à Buddy Tate, il aurait pu utiliser un des nombreux saxophonistes présents à New York, mais il préféra un musicien originaire du Texas, parce qu'il jouait le style de jazz propre à Count Basie. Être un sideman était une bonne chose. J'ai ainsi pu jouer avec Roy Eldridge, Don Byas, Earl Bostick, originaire comme moi de Tulsa, Duke Ellington, et puis, je n'ai jamais eu aucun souci à me faire. Je me contentais d'aller bosser. Quand on est le leader, il faut prendre en charge la promotion, les choix du musicien, les contrats d'enregistrement. Il faut savoir être diplomate avec ses acolytes, le public. C'est très difficile. On ne devient pas un bon leader si on n'a pas été un bon sideman. Pour donner des ordres, il faut savoir les recevoir.
To give orders, you have to learn to take orders.
Si New York a été et reste la capitale du jazz à l'échelle planétaire, d'autres villes américaines ont été des viviers de talents indéniables. D'abord la Nouvelle-Orléans, où naquit Louis Armstrong, mais aussi Kansas City, le berceau de Charlie Parker, ou Chicago, patrie du saxophoniste Von Freeman, autre virtuose sous-estimé qui profita du bouillonnement artistique de sa ville natale pour se faire un nom au contact des notoriétés de passage.
When I first got out of the service, I got out in 46. I was in service from 42 to 46.
Entre 1942 et 1946, j'étais dans la marine, dans l'orchestre The Hill Cats. C'est là que j'ai rencontré de grands noms qui firent ensuite partie de célèbres big bands. Ce qui d'ailleurs me permit de jouer en grand orchestre pendant un an. Puis j'ai rencontré un grand impresario de l'époque. Il avait dans son écurie Bird, donc Charlie Parker, Dizzy Gillespie, et possédait un club, le Pershing Ballroom, au sud de Chicago. Il me demanda si mes frères et moi étions prêts à jouer chez lui. J'ai bien évidemment accepté, et c'est ainsi que je me suis retrouvé derrière. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge et Billie Holiday. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a no one can ever reprise.
Le saxophoniste Von Freeman nous a quittés le 11 août 2012 à 89 ans. Mais une fois de plus, son témoignage inscrit le nom des virtuoses oubliées aux côtés des stars d'autrefois. Car il ne faut jamais opposer la petite et la grande histoire. Nous avons trop tendance à ne retenir que les heures glorieuses et quelques chapitres éminents de l'épopée des musiques noires. Mais le quotidien des musiciens, qu'ils soient connus ou non, était chaque jour une épreuve, à une époque où la ségrégation raciale était la norme sociale. Le trompettiste Harry Sweets Edison, qui officiait dans le Count Basie Orchestra, a longtemps souffert de son statut de nègre aux États-Unis.
We used to suffer.
Vous savez, c'était dur de voyager en bus 300 jours par an, ne pas savoir où dormir en arrivant à destination, ne pas pouvoir s'arrêter dans les restaurants des États du Sud aux États-Unis, ou encore avoir peur d'aller acheter à manger dans un magasin. Les musiciens actuels n'ont pas connu cette souffrance, ils n'ont pas cette expérience. Il fallait vraiment être musicien pour supporter ces conditions et se battre pour être reconnu en tant qu'être humain. Mais quand on dépasse cette dure réalité, qu'on persévère dans ce qu'on aime, qu'on traverse tous ces obstacles, cela finit par rejaillir dans votre personnalité. Cela a permis aux anciens de construire un patrimoine pour les jeunes générations. Ils leur ont ouvert la voie au prix de nombreux sacrifices. Je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui auraient supporté cela. Ils n'auraient jamais eu cette humilité. La condition des Noirs aux États-Unis dans les années 30, 40, 50 est effroyable. Alors que les musiciens donnent l'illusion d'être heureux sur scène, ils sont résignés dans les coulisses. Ce perpétuel effort de dissimulation psychologique aura un impact désastreux sur le bien-être et l'épanouissement de tous ces brillants jazzmen afro-américains. Leur humilité n'était-elle pas le fruit de cette oppression qui les enfermait dans une prison mentale où affirmer son existence était un délit ? On peut comprendre aujourd'hui que le regretté Harry Sweets Edison se sentait presque obligé de s'excuser de n'avoir pas été un leader au même titre que Miles Davis ou Dizzy Gillespie.
I never acquired a name like Dizzy or Miles.
Je n'ai jamais fait d'ombre à Dizzy Gillespie, Miles Davis, Lee Morgan ou Freddie Hubbard. Je n'ai jamais fait partie de cette équipe de trompettistes. Ils dirigeaient des orchestres, ce ne fut pas mon cas, ou peut-être une fois à New York. Ils étaient les leaders d'orchestre qui tournaient. Moi, je tournais en tant que soliste pour différents musiciens. Parfois, j'ai un petit regret de ne pas avoir été reconnu comme ils le furent. Mais que voulez-vous ? C'est la règle du jeu. Harry Sweets Edison a été un pilier des orchestres de Count Basie, Duke Ellington, Nat King Cole, Oscar Peterson. Qui parle encore de lui aujourd'hui ? Plus grand monde. Et pourtant, sans sa fougue et sa délicatesse mélodique à la trompette, l'humeur sonore des big bands d'alors n'aurait pas été saluée avec tant d'enthousiasme. Autre exemple, connaissez-vous Ray Dolloway ? En dehors des spécialistes ou musicologues avertis, personne n'a réellement salué sa mémoire lors de sa disparition le 25 février 2012. Cet impeccable saxophoniste avait pourtant servi le répertoire de gens aussi insignifiants que Billie Holiday, Muddy Waters, Sonny Rollins, B.B. King, Aretha Franklin, Lionel Hampton et quelques dizaines d'autres. Nous avions eu le privilège de rencontrer ce brave homme au crépuscule de sa vie et il regrettait amèrement que son jazz, celui des origines, soit si peu célébré.
The music of my era. Of the contemporary Coleman Hawkins type playing.
La musique de ma génération, celle de Coleman Hawkins, personne ne la connaît réellement. Il reste quelques musiciens sur cette terre capables de jouer cette musique, notamment Scott Hamilton, qui essaye de perpétuer la tradition. Je recommande d'ailleurs vivement ces artistes. Malheureusement, l'heure est à la nouveauté et les musiciens stars aujourd'hui sont les jeunes. Les anciens comme moi ou Horace Silver sont des figures du passé. Mais viendra le temps où nous serons le joyau rarissime que l'on paiera cher pour ses services. Nous serons les seuls à pouvoir jouer comme au bon vieux temps, celui de Lester Young, Charlie Parker, Ben Webster ou Coleman Hawkins.
This is something that they didn't get a chance to hear, and we're one of the few people left that will still be able to play the old way.
Body and Soul, un classique du jazz immortalisé par Coleman Hawkins à New York le 11 octobre 1939 et que nous tenions à diffuser ici en guise d'hommage à Ray Dolloway qui tenait tant à ce patrimoine sonore. Parmi les accompagnateurs historiques, certains ont su s'accommoder de cette position inconfortable de sideman en acceptant de ne pas être dans la lumière, à moins d'être sollicité pour un projet bien spécifique.
Yango bedi de ne de nanye unadi
pianiste Hank Jones, aujourd'hui disparu, retrouva les faveurs du public en 1995 en honorant l'invitation de son homologue malien, Cheikh Tidiane Seck, pour l'album Sarala. Outre le bonheur de redécouvrir le jeu subtil de ce virtuose du jazz, cette collaboration afro-américaine permit à Hank Jones de se plonger dans ses racines ancestrales. Il pensait même, à l'issue de ce projet ambitieux, avoir ressenti l'âme du peuple Dogon du Mali. Quoi qu'il en soit, cette plongée vertigineuse dans les origines africaines du jazz fut un bon prétexte pour l'interroger sur son histoire personnelle et ses rencontres avec les légendes d'antan. En arrivant à New York, j'ai contacté Hot Lips Page. Il se trouvait qu'un poste était vacant et me tendait les bras. C'était dans la 52e rue. Le club s'appelait The Ice Club. Art Tatum, lui, jouait au Mike Vance Club. Ainsi, dès que nous avions fini notre set, nous courions voir Art Tatum terminer le sien. Quelle période et quelle éducation! J'ai beaucoup appris de lui. Puis j'ai travaillé avec Coleman Hawkins. Et peu après, j'ai participé au JATP, le Jazz at the Philharmonic, pendant 3 ou 4 ans. Je passais d'un job à l'autre et j'ai finalement tourné avec Ella Fitzgerald. Je suis resté avec elle 4 ans. Tout cela a eu lieu avant que je m'installe définitivement à New York. Il s'est trouvé une période où je participais à la fois au JATP et aux tournées avec Ella Fitzgerald. Et ce, pendant 4 ans et demi. C'est seulement après cette période que j'ai décidé de résider définitivement à New York.
So, after that period, then I came to New York and sort of settled, you know.
Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no. But when two eager lips are pressed against yours, you'll know, yes, you'll know. Can anyone explain the glow of romance? No, no, no. But when you hear the phrase, it's you I adore, you'll know. Start. Don't think with your mind, just feel with your heart. Can anyone explain the wonder of love? No, no, no. But now that you and I are sharing a sigh, we know.
Put that horn down and listen. I want to ask you a question.
What's bugging you, baby?
Well, have you ever been in love?
How you sound. I've been in love 4 times. But tell me, can anyone explain the thrill of a kiss? No, no.
L'immense Ella Fitzgerald en 1950 en compagnie de Louis Armstrong et au piano le jeune Hank Jones dont la fabuleuse épopée ne faisait que commencer. Il croisera ensuite la route de Charlie Parker, Benny Goodman, Frank Sinatra et même Marilyn Monroe puisqu'il était au piano le 19 mai 1962 lorsque la célèbre actrice improvisa un Happy Birthday Mr. President à destination de John Fitzgerald Kennedy. Comme vous le voyez, la vie des musiciens d'accompagnement épouse celle de leurs illustres partenaire ou employeur. Il aurait donc été peu courtois de ne pas consacrer au moins une émission à ces artisans de l'ombre qui ont écrit avec autant de force que les célébrités la grande épopée des musiques noires. Nous poursuivrons d'ailleurs cette étude de la mémoire vive du jazz la semaine prochaine avec quelques héritiers de la tradition et notamment plusieurs partenaires de Count Basie dont on commémore en 2014 le 30e anniversaire de la disparition. Et puisqu'on parle de commémoration, je vous informe que le Duke Ellington Orchestra, dirigé aujourd'hui par le pianiste Tommy James, sous l'œil bienveillant de Paul Ellington, le petit-fils de Duke, ce grand orchestre donc donnera une prestation exceptionnelle le 29 avril prochain au Grand Rex, c'est-à-dire le jour anniversaire de Duke Ellington qui naquit un 29 avril, c'était en 1899 à Washington. 115 ans plus tard, le Duke Ellington Orchestra saluera la mémoire du chef d'orchestre à Paris. Et j'ajoute que nous accueillerons bientôt dans cette émission Paul Ellington, le petit-fils, et Tommy James, l'actuel directeur musical et chef d'orchestre. Merci au label Frémo et Associés pour avoir fourni l'essentiel de la bande-son de cette épopée. Merci à Nathalie Laporte qui mène à la baguette cette émission furieusement en swing. N'oubliez pas Facebook et Twitter si vous voulez réagir. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.